Bien, merci beaucoup Xavier pour ce mot d'accueil et merci aussi à notre hôte, à l'IESR et à sa directrice Isabelle Saint-Martin. Donc en effet, je vais essayer ce soir de la gageure quand même de vous retracer une introduction générale à ces deux immenses traditions que sont l'hindouisme et le bouddhisme. On pourrait commencer en fait par déjà revenir sur le titre qui vous a été donné. En fait, je me suis inscrit dans l'exposé que faisait auparavant un autre intervenant qui est Philippe Cornu, qui est lui-même un très grand spécialiste de ces deux traditions et du bouddhisme en particulier. Sachant que, vous voyez, aux origines de l'hindouisme et du bouddhisme, c'est assez piégeux, je dirais, comme titre, parce que ça incite à se tourner vers cette question des origines. Or, la question des origines d'une tradition, et en l'occurrence de deux traditions, lointaines, exotiques à bien des égards par rapport à nos repères marqués à la fois par le monothéisme, les monothéismes, et puis aussi par la modernité occidentale, eh bien, ça invite donc à faire un exercice vraiment historique ou historien, et voire archéologique, hein, pour essayer de saisir cette origine de l'une ou l'autre de ces religions. Et sachant que c'est très difficile, dès qu'on aborde la question d'une religion, de justement arriver à avoir une idée précise et parfaitement fondée en termes historiques de ses débuts. Isabelle Saint-Martin, qui est une historienne professionnelle, a fait un exposé tout récemment dans un laboratoire qui s'appelle le GSRL, en évoquant la question des manuels scolaires en particulier. Elle vous en a peut-être parlé un petit peu, mais... de comment les faits religieux sont traités en histoire, donc avec cette volonté évidemment de rigueur académique et disciplinaire, et en constatant justement que l'établissement des faits en histoire passe par des méthodes très rigoureuses, hein, par des recours aux archives, comme vous savez, par des sources archéologiques, et qui donc, quand on essaie de saisir l'origine d'une tradition, surtout parmi les traditions les plus anciennes, comme celle qui nous intéresse ce soir, eh bien, c'est extrêmement technique, difficile, avec un nombre de polémiques aussi, ou en tout cas de questions débattues entre spécialistes, entre experts extrêmement spécialisés, extrêmement, je dirais, techniques, voilà, avec une dimension vraiment d'ultra-compétence, en quelque sorte, peu accessible au commun des mortels. Donc là, on est face à ce type de défi, si on était sur l'idée de remonter aux origines. Donc ce que je vais vous proposer ce soir, c'est plutôt, comme je disais, une introduction générale, hein, à ces deux traditions, en essayant de revenir justement quand même à leur lien, hein, puisque c'était un peu l'idée, je pense, aussi de Philippe Cornu, d'associer ces deux grandes religions, sachant que, comme vous savez, ce lien, c'est aussi de s'enraciner dans le sous-continent indien. Hein. Parmi les grandes traditions asiatiques, en fait, on a eh bien, ces deux-là, l'hindouisme et le bouddhisme, on a agir un troisième... univers, en quelque sorte, qui est le monde chinois. Alors, je ne sais pas si l'IHMR a prévu de vous parler du monde chinois.
On s'arrête à l'Inde.
Voilà, on s'arrête à l'Inde. Sachant qu'on ne peut pas ne pas évoquer aussi le monde chinois quand on parle de ces religions, puisque le bouddhisme en particulier, bien que religion née en Inde aux alentours du 5e, 4e siècle avant notre ère, eh bien, c'est diffusé, comme vous le savez, vers le monde chinois, et marqué très en profondeur. Le bouddhisme s'est diffusé vers quasiment l'ensemble de l'Asie, mais il est devenu, je dirais, l'une des composantes majeures de la culture chinoise. À certains cas, si on faisait une sorte de rapprochement, un peu comme le christianisme est devenu une composante majeure de l'identité de l'Occident et de l'Europe, en l'occurrence. Oui. Bouddhisme né en Inde, mais arrivé en Chine aux alentours du 1er siècle de notre ère, approximativement, et puis donc depuis 2000 ans présent en Chine et l'ayant vraiment marqué très en profondeur, même si le bouddhisme n'est pas la seule religion de Chine, et en effet il y a aussi des religions proprement nées en Chine comme le confucianisme qui est à la limite du religieux, c'est un débat qu'on pourrait éventuellement avoir, et puis le taoïsme, et puis par ailleurs aussi d'autres traditions, elles pour le coup venant d'ailleurs aussi, comme d'ailleurs les monothéismes, hein, qui fait que la Chine est une mosaïque sur le plan religieux. Mais en tout cas, on a donc, vous voyez, cette étrangeté en quelque sorte du bouddhisme, qui est une religion indienne d'origine, mais qui a fleuri surtout en dehors d'Inde, et en particulier en Chine et puis dans les Himalayas, comme vous savez, donc dans le Tibet, Népal, Bhoutan, etc., en Mongolie, au Japon, en Corée, donc dans tout un tas de pays qui sont très différents de la patrie originelle du bouddhisme qu'est l'Inde. Donc là, c'est aussi une particularité qu'il faut avoir en tête, hein, et bon, alors, donc, je tenais à dire ça en introduction, sans pouvoir revenir beaucoup sur la question de la Chine, mais c'est quand même, je dirais, aussi important que le monde indien, et en l'occurrence, il y a le bouddhisme qui fait le lien entre ces deux univers. Hein. Alors, pour ce qui est du choix d'avoir lié ces deux traditions, donc, vous voyez, il y a cette origine indienne commune. Même si l'Inde c'est alors un sous-continent comme on dit, bon, c'est un monde en fait, hein, c'est même des mondes, et surtout quand on remonte dans l'Antiquité très ancienne, et donc le lien entre hindouisme et bouddhisme est à la fois très fort, on va le voir, et en même temps problématique. Pourquoi problématique? Parce qu'en fait, comme souvent en histoire et en histoire des religions en particulier, on a face à ces deux traditions un phénomène en quelque sorte d'illusion rétrospective, c'est-à-dire que nous les regardons, nous, en tant qu'hommes d'aujourd'hui, avec tout un parcours historique qui nous sépare de ces origines, et ça nous amène justement à parfois à avoir une sorte, voilà, comme je dis, d'illusion, hein, à renforcer des liens qui n'étaient pas donnés au départ et ne sont peut-être d'ailleurs pas établis au départ de façon certaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que habituellement, quand on présentait encore il y a, je dirais, il y a peu et peut-être il y a une vingtaine d'années, les rapports entre hindouisme et bouddhisme, quand on évoquait ces deux traditions, on avait tendance à dire l'hindouisme c'est la religion mère et le bouddhisme c'est la religion fille, dans voilà, une linéarité chronologique de ce type. Là aussi, souvent, avec en arrière-fond, dans le rétroviseur, en quelque sorte, comme dit Régis Debray, des représentations qui sont très liées à l'histoire occidentale et à l'histoire des religions dans le monde occidental. Par exemple, hein, l'évidence est de dire, voyez l'analogie avec judaïsme et christianisme. Hein. Le bouddhisme serait la religion fille de l'hindouisme, de même que le christianisme est une religion fille du judaïsme. Et ce schéma, j'irais à titre pédagogique, il reste encore utile. Donc, j'emprunterai en partie, hein, parce que c'est une voie assez, enfin, toute tracée depuis de longues années dans ce domaine, et puis qui n'est pas sans intérêt en termes de vulgarisation, en quelque sorte, qui permet de simplifier pas mal de choses quand on a très peu de temps, comme ce soir. Néanmoins, les derniers acquis de la recherche montrent que cette présentation-là est assez problématique, parce que il est possible et même probable que les régions dans lesquelles le bouddhisme est apparu, comme j'ai tout à l'heure, aux alentours des années 450 avant notre ère approximativement, eh bien, n'étaient pas hindouisés, ou en l'occurrence brahmanisés, alors je vais revenir sur ce terme, à l'époque, à cette haute époque, au milieu du premier millénaire avant notre ère, et que donc l'idée de dire, voilà, le bouddhisme sort de l'hindouisme, ou en tout cas sort du brahmanisme, vous voyez, de ce point de vue-là, c'est assez caricatural, voire presque faux, en fait, peut-être faux. Alors que c'est vrai, aujourd'hui, des idées qui sont encore très très répandues. En effet, la brahmanisation de l'Inde serait un processus très long et très complexe, qui se serait déroulé pendant des siècles, voire des millénaires, partant du nord-est de l'Inde, hein, partant donc, non, pardon, du nord-ouest, hein, du nord-ouest de l'Inde, c'est-à-dire donc, vous voyez, à partir du monde iranien et de l'Afghanistan, le Pakistan actuel, hein, la culture qui est associée ou avec ce qui va donner le brahmanisme et l'hindouisme par la suite, qu'on appelle souvent, vous savez, le monde aryen, hein, enfin c'est identifié avec cette notion d'aryen qui là aussi est une notion très problématique et dont je vais reparler un petit peu tout à l'heure. Eh bien, vous voyez, c'est un mouvement donc qui vient de l'ouest et qui va vers l'est et qui progresse dans le sous-continent indien, qui va atteindre la vallée du Gange et puis qui après va descendre vers le sud. Et ça se fait en plusieurs siècles. Donc voilà. On pense à l'heure actuelle qu'aux alentours donc de l'époque qui a vu naître le bouddhisme, la vallée du Gange moyen, hein, la région où Siddhartha Gautama, celui qu'on va appeler le Bouddha, était actif, n'était pas encore brahmanisée, pas complètement. Alors c'est assez complexe, c'est assez problématique, parce que en même temps, quand vous lisez les textes fondateurs du bouddhisme, qui sont là aussi comme souvent l'une de nos sources principales en dehors de l'archéologie, pour établir l'histoire de cette religion et l'histoire de ses origines, on nous parle des brahmanes, on nous parle des dieux brahmaniques. Hein. Alors là, on pourrait dire, ben, vous voyez, le Bouddha lui-même, par exemple, il est censé, au moment où il atteint son éveil, son expérience spirituelle fondatrice, ça aussi je vais en reparler, avoir été confronté au dieu Brahma, donc un des grands dieux du brahmanisme. Et donc on pourrait dire, mais oui, mais ce texte témoigne bien d'un état de cette religion, le bouddhisme, et même de ces deux religions, le bouddhisme et le brahmanisme, où les deux étaient en contact. Hein. Or, il semblerait bien que ces textes ont été mis par écrit justement par la suite. Hein. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que le bouddhisme est la religion fille de l'hindouisme au sens strict et premier du terme. Par contre, ces deux traditions se sont retrouvées rapidement à l'échelle historique, donc vous voyez au bout de peut-être, je ne sais pas, deux siècles, ou avant en tout cas la mise par écrit des textes fondateurs du bouddhisme, se sont retrouvés en contact. Et que c'est à ce moment-là qu'en quelque sorte l'interfécondation s'est faite entre elles deux, vous voyez. Et qu'il y a eu une interaction, et donc vous voyez, on ne peut pas ignorer ce lien. Et là encore aussi, comme je pense qu'on devrait le faire quand on envisage des relations entre christianisme et judaïsme. Vous voyez, à certains égards, le christianisme sort du judaïsme, mais à d'autres égards, on pourrait dire aussi que c'est le judaïsme qui sort du christianisme. Parce que c'est le christianisme qui, devenant fait majoritaire, a beaucoup formaté les développements du judaïsme au cours des siècles, par exemple de l'Antiquité tardive et puis au Moyen-Âge. Vous voyez. Donc là, l'analogie est intéressante et pourrait être aussi faite dans le contexte oriental pour dire que le bouddhisme, religion minoritaire issue du monde indien, a subi la pression majoritaire du brahmanisme puis de l'hindouisme, non pas à son origine, mais par la suite, au cours des siècles suivants. Oui. Et ce qui expliquerait notamment l'état de ces textes.
Ouais. Peut-être, Eric, resituer le brahmanisme, justement, ça démarre. Alors, voilà. Ça démarrerait quand
Alors, en effet.
Ça apparaît quand
voilà,
on va donner peut-être un peu les grandes.
Les grands repères historiques, grands repères. Là aussi, très, très délicat, en fait. Hein, très très difficile à établir. Pour aller au plus évident, et là aussi dans une logique de vulgarisation, en fait, on emploie trois termes traditionnellement pour parler de cette religion indienne principale. Hein. Il y a plusieurs religions en Inde, mais la religion majoritaire jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'hindouisme. Et on emploie les termes de védisme, de brahmanisme et d'hindouisme. Donc on peut dire l'hindouisme, au sens le plus général du terme, c'est cette très très vaste tradition, très diversifiée, étonnamment diversifiée, hein, une des plus diversifiées du monde, hein, ce qui d'ailleurs rend difficile presque d'en parler au singulier. Hein. Là, j'ai mis tous ces mots au singulier, le védisme, le brahmanisme, l'hindouisme, mais on verra tout à l'heure que est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire les hindouismes, parce que ce ne serait pas plus juste, hein, bon. Eh bien, ce grand fleuve, comme j'allais dire, en fait, ce grand courant à la fois religieux et culturel, bien sûr, hein, pas que religieux au sens étroit du terme, puisque c'est aussi un mode de vie, hein, une civilisation, hein, si on la, voyez, on considère l'ensemble, on peut parler de l'hindouisme, hein, comme un tout, hein, avec ces trois étapes, en quelque sorte, d'abord le védisme, ensuite le brahmanisme, et puis enfin l'hindouisme en tant que tel. On parle parfois d'hindouisme comme moderne, c'est un mot qu'on peut trouver, sachant que quand on dit l'hindouisme au sens moderne, eh bien, là aussi, de quelle modernité parle-t-on, hein? C'est-à-dire que l'hindouisme en tant que tel, souvent, on va employer le terme, vous voyez, aux alentours, en gros, de l'ère chrétienne, encore une fois. Donc c'est une modernité très très lointaine par rapport à ce qu'on appelle, nous, la modernité, vous voyez. Mais, vous voyez, donc il y a cette évolution très longue, très lente, de ces, par étapes en quelque sorte, à gros traits, de ce courant qui va donner naissance à ce qu'on appelle nous aujourd'hui, au sens propre, l'hindouisme. Et alors, pourquoi védisme et brahmanisme? Eh bien d'abord parce que le texte fondateur auquel se réfère cette tradition, malgré sa grande diversité, c'est le Veda, V-E-D-A. Là aussi, difficulté. Hein. Vous allez voir, chaque fois qu'on dit un mot, en fait, par rapport à ces sujets, il y a des difficultés qui apparaissent. Le Veda ou les Védas, hein. Parce qu'en l'occurrence, le Veda est un recueil de toutes sortes de textes, et au moins de quatre autres recueils qu'on appelle les Védas, et dont le plus connu est le Rig Veda, R-I-G-V-E-D-A, le Veda des hymnes, hein, sachant qu'il y en a donc trois autres en plus. Et donc, là aussi, encore analogie pédagogique, on pourrait dire que c'est au fond comme la Bible. Hein. La Bible, comme vous savez, on emploie ce terme au singulier, mais en fait, ce terme singulier est issu d'un pluriel, hein, les livres en grec, hein, C'est un peu pareil avec les Védas. Hein. On peut le considérer comme un tout à certains égards, hein, et c'est plutôt comme ça qu'il est vu par la tradition hindoue. Néanmoins, c'est un texte qui a une histoire très complexe, qui est formé de tout un tas d'autres textes et même de recueils successifs qui ont été accolés les uns aux autres. Bon. Alors, donc, premier état de cette tradition, le védisme, très difficile à connaître aujourd'hui, parce que justement, on est dans une phase, on pourrait dire, quasiment préhistorique. Hein. Plus exactement, comme vous savez, la limite entre préhistoire et histoire, c'est le passage à l'écrit, pour l'essentiel, et donc la fixation du Véda est certainement l'une des premières de l'histoire de l'humanité. C'est l'un des plus anciens textes de l'histoire de l'humanité. Alors, après...
Moins 2000 avant Jésus-Christ.
Approximativement, moins 2000 avant Jésus-Christ. Mais comme je dis, je vois que Xavier me pousse à donner des dates précises.
Non, mais des repères, voilà. Pas des dates précises.
Non, mais des repères. 2000, mais même ces repères, je suis assez réticent, parce que même ces repères, c'est vrai que c'est ce qu'on trouve, comme je dis souvent, dans la littérature, et notamment dans les ouvrages de vulgarisation. Voilà, on a envie de ces repères, mais ces repères sont piégeux en quelque sorte, parce que ces datations sont assez fluctuantes selon les auteurs, incertaines. Tout dépend aussi à qu'est-ce qu'on veut dire par cette date. Est-ce que c'est le moment où le texte a été fixé, le moment où il a été couché par écrit? Bien sûr, on n'a aucun, je dirais, support matériel aussi ancien. Donc, ce qu'on a aujourd'hui des Védas, c'est des copies qui sont beaucoup plus récentes. Hein. Donc, vous voyez, par reconstruction, par hypothèse, on en a ce type de repères chronologiques-là, mais qui sont quand même assez fragiles. Hein. Donc, ce qu'on peut penser, c'est qu'en effet, il y a eu des mouvements de population de ces fameux indo-européens ou ariens. Et là, vous voyez, vous avez aussi, on va vite arriver à tout un tas de questions, y compris polémiques ou politiques, autour de cette vision, hein, ce schéma, en quelque sorte, explicatif, qui verraient donc ces peuples venir avec leur tradition religieuse, hein, dans ce monde indien qui était habité par d'autres peuples, hein, qu'on appelle parfois les Dravidiens, hein, donc des peuples assez différents culturellement et religieusement, hein, et même ethniquement, enfin, parce que autour de ces schémas, vous savez, autour de la question arienne, bien sûr, il y a la question raciale qui est toute proche, hein, et on voit bien avec quelle connotation tragique au cours de notre histoire récente. L'une des idées qui habite toute cette histoire des Indo-Européens, c'est qu'en gros, les Indo-Européens seraient des gens plutôt de peau claire, alors que les Dravidiens seraient des gens plutôt de peau foncée. Hein, et que donc, plus on irait vers le sud de l'Inde encore aujourd'hui, plus on trouverait des populations à peau foncée. Comme on peut en voir aujourd'hui majoritairement au Kerala ou au Karnataka, oui, dans les états méridionaux de l'Inde, alors que si on va vers le nord de l'Inde, on trouvera des populations à peau plus claire, à de type plus comment dire, occidental, c'est peut-être le mot est trop fort, mais en tout cas, vous voyez, plutôt de type iranien ou de type afghan. Voilà. Donc là aussi, vous voyez, on est face à des questions qui sont bien sûr très controversées, polémiques, où l'histoire elle-même est tout le temps embarquée dans des questions politiques, au fond. Vous avez des chercheurs contemporains comme Jean-Paul de Moule qui ont essayé, par exemple, de retravailler cette question des Indo-Européens comme d'un mythe, hein, dans la lignée aussi de Léon Poliakov, de tous ceux qui avaient travaillé sur ce qu'on appelle le mythe arien. Hein. On ne peut pas ne pas évoquer cette question quand on raconte tout ça, bien sûr, parce que, encore une fois, l'histoire et le mythe se confondent un peu quand on évoque ces époques si anciennes, et parce que ces questions sont encore aujourd'hui des enjeux politiques brûlants. C'est-à-dire que, quand vous regardez le gouvernement actuel de l'Inde, qui est tenu, comme vous savez, par le BJP, hein, donc un parti nationaliste, voire ultranationaliste, la question de l'identité hindoue, hein, de ce que le BJP appelle dans sa doctrine l'hindutva, hein, l'hindouïté est une question centrale qui détermine aujourd'hui tout un tas de politiques publiques, de discours officiels, et qui tendent à considérer comme non-indiens et comme étrangers tous ceux qui ne sont pas hindous. Hein. Autrement dit, par exemple, les Indiens chrétiens, les Indiens musulmans, les Indiens bouddhistes, les Indiens athées, etc. Vous voyez, leur hindouïté, hein, leur appartenance à la communauté nationale, si on peut parler pour un ensemble aussi vaste que l'Inde, est problématisé, attaqué par ce gouvernement, au nom de tout ce passé, hein, très largement mythique, renvoyant à cette idée des Indo-Européens, des Aryens, hein, apportant le Véda dans ces très hautes époques, dans des régions tenu à l'époque par d'autres populations et d'autres religions. Vous voyez là aussi la prudence un peu que j'ai pour évoquer tous ces sujets, parce que c'est des sujets très sensibles, évidemment. Et d'une actualité brûlante. Hein. Là, on voit aussi que le passé est extrêmement présent, en fait, hein, même le passé très très lointain. Et il a des enjeux actuels très forts. Alors, par rapport à tout ça, il est nécessaire peut-être d'expliquer aussi ce mot arien. Hein. Le mot arien vient d'un terme sanskrit, puisque la langue sacrée dans laquelle les Védas sont écrits, c'est le sanskrit. Là aussi, en simplifiant un peu quand même. Mais donc ce sanskrit, c'est l'une des langues sacrées principales de l'Inde. Je dis l'une parce qu'en fait, vous allez voir, il y en a plusieurs. Mais c'est, disons, dans la grande tradition brahmanique et par la suite hindouiste, c'est la langue de référence. Donc c'est la langue védique. Et dans cette langue védique, comment dit-on noble, hein, un être noble, ça se dit Arya. A-R-Y-A, Arya. Donc le mot Aryan, dans nos langues, en anglais, en français, en allemand, a été forgé sur ce mot sanskrit, Arya, qui est le terme par lequel les populations qui ont apporté les Védas dans cette région s'appelaient elles-mêmes. Elles disaient, nous, on est les Aryas, on est les nobles. Là aussi, vous voyez toutes les connotations que ça peut avoir sur tous les plans, politique, racial, et bien sûr aussi de hiérarchie sociale. Sachant, comme vous savez, là aussi, c'est très difficile de savoir est-ce que c'est un terme qui renvoie d'abord à des dimensions, justement, de hiérarchie sociale, ou à vraiment des dimensions ethniques. Quelle est la part des deux? On ne saura probablement jamais. Il y a un peu certainement des deux. C'est très difficile de savoir. Et donc, ce terme, vous voyez, est un terme mélioratif, hein, un ethnonyme, en quelque sorte, ce peuple ou ces peuples se donnaient ce nom à eux-mêmes pour se différencier des autres populations auxquelles ils étaient confrontés et auxquelles, en fait, ils ont, semble-t-il, peu à peu imposé leur propre repère, leur propre tradition. Hein, ce fameux védisme. Alors, que peut-on savoir du védisme en tant que tel à ces très hautes époques, hein? Donc, comme je dis, il va se fixer dans des textes tardivement, hein, aux alentours peut-être de l'an 1000 de notre ère, et encore, hein, c'est un mouvement qui va durer longtemps, à travers tous les hymnes dont je parlais tout à l'heure, qui vont se fixer les uns après les autres, pour former le Véda en tant que tel, le corpus védique. Sachant que ce corpus védique, il avait une existence orale avant d'avoir une existence écrite. Donc là aussi, les dates sont problématiques. Hein. Les Védas existaient avant qu'on les mette par écrit, comme des textes oraux. Mais à un moment donné, ils ont été mis par écrit et fixés. Et donc, que peut-on dire de cette religion védique? Eh bien, c'est très difficile, en fait, justement, tant elle est ancienne. Et tant, on en connaît que des traces à travers ce texte des Védas. À travers ce texte des Védas, on est confronté à une tradition qui semble très ritualiste, axée donc sur des récitations d'hymnes, hein, comme c'est le terme qu'on retrouve, hein, des cérémonies extrêmement détaillées, des sacrifices en particulier, une religion qui est très axée sur la notion de sacrifice, et qui met en avant notamment la figure de rois, hein. Le roi a un rôle magico-religieux très important dans ces textes, et aussi de prêtres, qu'on va appeler par la suite les brahmanes. Donc là aussi, vous voyez un ensemble de termes qui vont caractériser la tradition hindouiste, hein, qui se mettent en place très tôt, le dieu Brahma et les brahmanes qui sont ceux qui sont les prêtres, en fait, hein, ceux qui ont une fonction sacerdotale de connaissance des Védas, hein, donc la capacité à connaître par cœur les Védas, à les réciter et à mettre en œuvre les cérémonies qui correspondent, hein, puisque c'est des textes qu'on récite toujours en faisant des gestes, en posant des symboles, en faisant des rituels, et qui connaissent le sens et la mise en œuvre de ces textes de façon rituelle pour qu'ils soient efficaces. Ça, c'est la fonction des brahmanes. Il y a un troisième terme qu'il faut mentionner, toujours sur la même racine, qui est celui de... Alors, je vais dire brahman, hein, B-R-A-H-M-A-N, pour le distinguer oralement de brahman avec un E pour parler des prêtres. Mais en fait, dans les langues de l'Inde, on dirait aussi brahman. Ce brahman, hein, c'est quoi? C'est un terme qui va apparaître au cours de l'évolution du védisme vers ce qu'on va appeler le brahmanisme. Déjà, on a une deuxième étape. Et qu'est-ce que c'est ce brahman? C'est un principe spirituel impersonnel. Donc, dans les Védas, dans la phase védique de cette religion, la phase la plus ancienne, on a ce qu'on appelle parfois un polythéisme. En tout cas, on a une très grande variété de dieux, de divinités. certains disent parfois, certains textes parlent de 33 dieux, ou 30, ou 333, ou 33 000. Hein. Façon de dire en fait qu'il y a à la fois une sorte d'infinité de dieux, mais que ce très grand nombre de dieux majeurs ou mineurs, hein, donc ce panthéon extrêmement vaste et complexe, est structuré en même temps, et en l'occurrence structuré par l'idée de la ternarité, hein, par le 3. Et donc, parmi toutes ces divinités védiques, il y en a certaines principales. Par exemple, vous pouvez penser à Mitra, le dieu Mitra, hein, est un des dieux centraux qu'on va trouver dans les Védas, ou le dieu Varuna, par exemple, hein, que le grand savant, vous savez, Georges Dumézil, le grand savant français, qui a consacré toute une partie de sa vie aussi à reconstituer l'imaginaire et la vision du monde des Indo-Européens, eh bien, avait rapproché ce dieu Varuna de Uranus. Uranus Varuna, il y a un célèbre livre qui s'appelle ainsi, hein, qui montre qu'on peut établir aussi peut-être certains parallèles avec les figures védiques et puis des figures de la tradition celtique ou de la tradition germanique ou de la tradition romaine ou grecque, par exemple. Donc on a ces dieux védiques, hein, l'un des plus importants est aussi le dieu Indra, hein, alors je ne vais pas tous vous les citer, mais enfin, vous voyez, il y en a beaucoup, hein, et qui donc sont l'objet de ces rituels et de ces sacrifices extrêmement détaillés, extrêmement élaborés, hein, et qui semble donc ces sacrifices être l'essentiel de la religion. Sachant aussi que ce qui apparaît dans les Védas, c'est que, au fond, le but de la vie humaine, hein, c'est d'avoir une vie longue et féconde, heureuse, où on a donc la santé, la longévité, beaucoup d'enfants, beaucoup de troupeaux. Hein. Chose aussi qu'on pourrait retrouver, je dirais à certains égards, dans les traditions monothéistes, dans leurs versions les plus anciennes. Hein. On ne parle pas beaucoup de l'au-delà, de la métaphysique, etc. C'est pas tellement ça qui transparaît. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, mais en tout cas ça ne transparaît pas dans les textes. Mais ce qu'on peut penser, c'est que justement, ce modèle quand même, je dirais, très centré sur la vie humaine, ici-bas, et sur les préoccupations d'un bonheur humain, en quelque sorte, hein, en rapport avec l'invisible, hein, les dieux, si on fait tout ce qu'on doit faire à leur égard, ils nous garantissent cette vie humaine heureuse, avec une très vaste descendance, une longévité, etc. Simplement, il est possible que, donc au cours des siècles où cette tradition védique avait commencé à s'enraciner dans le monde indien, eh bien, cette dimension très liée à la vie humaine, terre à terre en quelque sorte, n'est plus suffit pour répondre à tous les besoins existentiels, spirituels, etc., des populations. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on voit justement que des nouveaux textes, en quelque sorte, vont apparaître et s'ajouter au recueil védique. Et ces textes, on les appelle les Upanishads. Alors, U-P-A-N-I-S-H-A-D, les Upanishads. Terme très difficile à traduire en sanskrit, qui veut dire souvent approche, connexion, on traduit comme ça. Et ces Upanishads sont en fait, vous voyez, des textes qui sembleraient avoir été fixés aux alentours des années 700 à 300 de notre ère. Non, pardon, pas notre ère. Avant notre ère, le premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc, moins 700, moins 300, là aussi avec beaucoup d'incertitudes. Ce qui est donc des textes beaucoup plus tardifs que le reste des recueils védiques, mais qui sont néanmoins insérés dans le recueil védique. Parfois, à propos de la doctrine mise en œuvre par ces textes, on parle aussi du Vedanta. V-E-D-A-N-T-A. Le Vedanta, ça veut dire littéralement la fin du Veda. Vous voyez pourquoi la fin du Veda? Parce que ces textes sont à la fin du Veda, hein, du recueil védique. Hein. On pourrait dire aussi qu'ils en sont quelque sorte le sommet. Hein. Et en cela, même, c'est l'interprétation que font ceux qui adhèrent à ces textes, qu'ils sont la fin du Veda, au sens du but du Veda. Que tout l'aspect rituelique, magico-religieux, très cérémoniel des premiers textes védiques aboutit en quelque sorte à ces textes qui sont beaucoup plus métaphysiques, hein, qui mettent en œuvre ce qu'on appelle parfois la grande parole, hein, en sanskrit, hein, vous trouvez cette expression, la grande idée centrale dans les Upanishads, et donc dans ce qu'on va appeler aussi par la suite le Vedanta, hein, qui va être donc un des courants de l'hindouisme, c'est que l'être humain, hein, la partie la plus intime de l'être humain, ce qu'on va appeler l'Atman, A-T-M-A-N, Atman, ce qui se traduit littéralement en sanskrit par le soi, hein, parce que c'est un pronom réfléchi, qui correspond au terme soi en français, le soi, eh bien, ce soi personnel, il n'est pas que personnel, il est en même temps universel. Il est le point, on pourrait dire, où notre individualité communique avec l'universel. Et cet universel, il n'est pas que humain, mais il est transcendant. Et il est identique à ce fameux Brahman dont je parlais tout à l'heure. Le Brahman, c'est ce principe spirituel, absolu, infini, indescriptible, totalement transcendant. Donc, qui apparaît, on pourrait dire, en filigrane, à travers l'évolution même des Védas, et qui se manifeste clairement à travers les textes des Upanishads. Avec cette idée centrale que, voilà, le plus intime du cœur de l'homme, non seulement communique, mais s'identifie, est la même réalité ultime que ce principe cosmique et ce principe transcendant qu'est le Brahman. Et par exemple, vous allez trouver des idées dans les Upanishads qui vont être développées de la sorte, à savoir que pourquoi les dieux védiques sont des dieux, pourquoi ils sont si puissants, pourquoi ils peuvent aider les humains, parce qu'ils ont reconnu le Brahman avant les humains. Donc on va dire, la réalité ultime c'est le Brahman, ce principe spirituel indéfini. Je dis indéfini, pourquoi? Parce qu'en sanskrit, il n'est ni masculin ni féminin. En général, d'ailleurs, on l'écrit avec une minuscule quand on rend ce terme dans les textes français, les indianistes ne mettent même pas une majuscule, vous voyez, pour rendre cette idée d'un terme neutre, impersonnel, au-delà de toute détermination de notre monde, le masculin, le féminin, le grand, le petit, voilà. Le Brahman, il est au-delà de tout ça. Donc, vous voyez, l'évolution interne au védisme qui va aboutir au brahmanisme, tout ça, je vous décris aussi, c'est comment on passe de l'un à l'autre, en quelque sorte, eh bien, se fait, vous voyez, aussi, par une sorte d'abstraction, on pourrait dire, bon, sans la connotation conceptuelle du terme, forcément, mais une espèce de spiritualisation, de passage à quelque chose, on pourrait peut-être envoyer le terme de mystique, là aussi, qui est un terme, vous voyez, qui vient d'un autre univers, donc il faut faire attention, mais donc une religion plus mystique, plus métaphysique, mais qui pour autant ne détruit pas les dieux védiques. Et ça, c'est une caractéristique du monde religieux indien, c'est qu'en quelque sorte, les étapes antérieures sont intégrées aux évolutions ultérieures, mais ne sont pas détruites. Là aussi, je ne peux pas rentrer dans les détails d'une comparaison qui pourrait être féconde avec ce qui peut se passer dans l'univers monothéiste, mais vous voyez, il n'y a pas de rupture au sein même du monde védique puis brahmanique entre la phase polythéiste et la phase qu'on pourrait dire. Alors, faut-il l'appeler monothéiste? C'est une des grandes questions que se posent les indianistes. Certains vont jusque-là, d'autres sont réticents. D'autres ont forgé des termes spécifiques. On parle parfois, vous savez, d'énothéisme, qui est un terme qui désigne en particulier l'idée que dans certaines traditions polythéiste, c'est-à-dire où il y a plusieurs dieux, eh bien, on va se vouer plus particulièrement à un de ces dieux-là. Et que pour nous, ce dieu-là, par exemple, disons, prenons l'exemple du polythéisme grec, Zeus, eh bien, le dieu Zeus résume en quelque sorte tous les autres dieux, et il est le dieu unique, le dieu principal, et les autres dieux sont des aspects de Zeus. Bon, ça, c'est, vous voyez, la différence entre polythéisme au sens strict, où là, on aurait des divinités différentes, et l'énothéisme. Bon, eh bien, pour analyser l'hindouisme, dans ces évolutions anciennes que je suis en train de décrire, eh bien, on va imaginer ce type de schéma, de dire au fond, certes, les dieux védiques sont très nombreux, Vayu, Indra, Vak, il y a des déesses féminines aussi, la déesse de la parole, par exemple, Savitar, le dieu solaire, etc., etc., Indra, mais il y a cette idée du Brahman qui émerge, comme un principe unique, transcendant, et en quelque sorte, les deux vont cohabiter. Donc ça, vous voyez, ça désigne la phase, on pourrait dire, brahmanique, qui voit aussi se mettre en place quelque chose dont on voit déjà les traces dans les Védas, mais qui va vraiment se clarifier et certainement passer dans des institutions humaines perceptibles, en quelque sorte, qui laissent des traces, qui sont le système des castes. Tout à l'heure, j'ai parlé des brahmanes. Vous voyez, donc il y a aussi, dans les Védas, l'idée d'une organisation cosmosociale, en quelque sorte, à la fois celle du monde, mais aussi, bien sûr, de la société, les deux étant reliés, qui est structurée sur trois grands groupes, trois communautés, vous voyez, comment... Certains, enfin, le terme de classe pourrait être tentant, mais il est ambigu en français, là aussi, il évoque des connotations marxistes et autres qui ne sont pas celles, bien sûr, de ces époques, ni de ce monde-là, mais trois groupes spécialisés, hiérarchisés, qui ont chacun des fonctions spécifiques, et qui sont, si on commence par du plus digne, du plus sacré au moins sacré, les brahmanes, les kshatriyas, c'est un mot compliqué, hein, K-C-H-A-T-R-Y-I-A, kshatriyas, c'est-à-dire les guerriers, les nobles, les rois, les princes, tous ceux qui ont une fonction politique et guerrière, les chevaliers, on pourrait dire aussi, de façon. Deuxième caste par ordre de dignité et de sacralité, en quelque sorte. Troisième, en descendant toujours, les Vaishyas, V-A-I-C-S-H-Y-A, les Vaishyas, qui sont les producteurs, mais avec une idée d'une dignité, là aussi, d'une certaine indépendance. Moi, j'ai été tenté de faire, par exemple, bon, c'est une approximation, ce terme, par l'idée de bourgeois, c'est le bourgeois au sens médiéval du terme, le maître artisan, par exemple. Le maître artisan, qui est un homme libre, et qui possède son métier au sens le plus propre du terme, qui a une dignité personnelle, une formation, et qui est propriétaire lui-même, hein, qui est un homme aisé. Hein. Donc ça, c'est les trois castes privilégiées, si on peut dire, en quelque sorte. Pourquoi privilégiées? Parce qu'il y a une quatrième caste, qui est celle des Shudras, S-H-U-D-R-A, et les Shudras, ce sont un peu, on pourrait dire, les manœuvres, ou les ouvriers, hein, les exécutants, qui rendent les services matériels aux trois autres castes. Donc là, vous voyez, et c'est intéressant de présenter les choses dans ces termes 3 plus 1, parce que c'est une structure qu'on va retrouver très souvent dans les religions indiennes, et en particulier dans le brahmanisme hindouisme. Donc on a 4 castes, 3 qui ont un statut particulier, notamment parce qu'elles sont, on les appelle deux fois nées, c'est-à-dire qu'elles reçoivent une initiation spécifique à la sortie de l'enfance, qui font qu'elles ont une naissance humaine, une naissance charnelle, et une naissance en rapport avec la religion, avec les Védas. Alors que les Shudras n'ont pas cette seconde naissance. Et puis il y a un cinquième groupe qu'il faut mentionner, qui sont ceux qui sont hors système. Le système des castes, vous voyez, il est en 3 plus 1, mais il y a encore un cinquième groupe qui sont les hors castes. Alors là aussi, il y a plusieurs termes, vous savez, les hommes intouchables, voilà, parias. Gandhi les appelait des Harijan, hein, les enfants de Dieu, avec sa logique des réhabilités, justement. Bon. Qui sont en fait, on pourrait dire, tous ceux qui ont justement, qui sont inassimilables en quelque sorte dans le modèle védique, hein, et brahmanique. Il est possible que ces populations, qui existent toujours, bien sûr, vous savez aujourd'hui, aient pour origine, en fait, des groupes qui auraient résisté à cette vague progressive de diffusion du modèle védique et brahmanique dans l'Inde. En Inde, vous imaginez, dans l'Antiquité, vous avez toutes sortes de peuples variés. Hein. Notamment, il y a des jungles, il y a des montagnes, il y a des zones peu accessibles. Et donc, la brahmanisation va suivre la vallée des fleuves, la vallée du Gange, les plaines, les endroits les plus accessibles. Et puis, dans les endroits moins accessibles, comme justement les forêts, les montagnes, etc., il y a d'autres groupes qui vont garder une certaine autonomie, ou en tout cas une certaine différence, pendant un temps, qui vont être moins facilement assimilés, et puis qui finalement vont finir par être englobés par la majorité, tout en gardant une sorte de spécificité qui fait qu'ils sont perçus comme différents. Et ce serait peut-être, c'est l'une des hypothèses possibles de l'origine de ce système des parias. Hein, et comme vous savez, donc c'est à ces gens-là que dans le système des castes, on va confier les tâches les plus viles. Donc vous voyez, on peut là aussi faire des rapprochements avec la terminologie française un peu surannée, mais hein, vous avez les arias, les ariens qui sont nobles, hein, qui sont ceux qui sont avantagés par ce système en quelque sorte, hein, en particulier les trois castes favorisées, privilégiées. Et puis vous avez les gens ignobles, hein, nobles, ignobles en français. C'est le sens même du mot ignoble, hein, ceux qui ne sont pas nobles. Et qui sont donc dévoués aux tâches les plus basses. En particulier aux tâches, je dirais, qui sont rituellement impures. Alors là aussi, on a du mal quand on regarde ces traditions anciennes, parce qu'on a, nous, une logique un peu hygiéniste, ou une logique, je dirais, pragmatique, contemporaine. Hein. Alors que dans ces mondes anciens, ce qui vaut, c'est la question de la pureté rituelle. Pourquoi le brahman est en haut de l'échelle? Parce qu'il a la pureté rituelle. C'est lui qui est le plus pur. Pourquoi il est le plus pur? Eh bien parce qu'il appartient à des groupes sociaux qui sont censés avoir la connaissance des Védas. À l'autre bout de la chaîne, vous avez non seulement le Shudra, mais encore plus l'intouchable, qui eux sont les moins purs, sont les plus éloignés de la source védique, les moins capables de mettre en œuvre les rituels et la parole védique, parce qu'ils ne la connaissent pas, ils ne sont pas instruits, hein, ils ne sont pas clercs, C-L-E-R-C. Hein. Et donc, on a, vous voyez, cette espèce de gradation, de hiérarchie au sens le plus fort du terme. Rappelez-vous, en français, le mot hiérarchie, enfin en français plus exactement en grec, ça renvoie à l'idée d'échelle sacrée, hein, hieros, hein, le principe du sacré. Hein. Donc le modèle brahmanique, c'est vraiment l'exemple type de la hiérarchie au sens premier du terme, hein, où on va ranger les groupes humains et les individus humains, en fonction de leur groupe d'appartenance, dans une pyramide dont le sommet est le sacré, et la source sacrée, et en l'occurrence les Védas, la parole divine, la parole révélée. Ça me permet de dire aussi d'ailleurs que du point de vue védique, brahmanique et hindouiste par la suite, les Védas sont une parole révélée. Les monothéistes ont souvent tendance à s'approprier la notion de révélation, à dire voilà, les religions révélées, ce sont nos religions, et puis les autres, ce n'est pas des religions révélées. Il se trouve que dans le cas de l'hindouisme, on a un cas d'école, hein, où la notion de révélation est explicitement thématisée par la tradition hindoue. Il y a des termes, le terme shruti, hein, vous pouvez même aller voir, si vous allez vous promener dans le 10e arrondissement, il y a des magasins de photos qui s'appellent shruti. Parce que la révélation, c'est même la révélation photographique. Vous voyez. Shruti, c'est la révélation. Hein. Et c'est cette idée vraiment qu'il y a un message sacro-saint, le plus essentiel, qui vient de l'invisible, qui vient des dieux et qui est délivré aux hommes et qui doit être transmis de génération en génération. En l'occurrence, les hommes qui ont reçu ce message, du point de vue des Védas, on les appelle les Rishi, R-I-S-H-I, terme difficile à traduire, qu'on emploie encore aujourd'hui en termes de façon honorifique pour certains maîtres spirituels, pour certains savants. Rishi, ça se traduit parfois par savant, par voyant, les voyants. Les voyants. Ceux qui ont vu la révélation. Donc, vous voyez voilà, comment se met en place ce système védique et comment il va évoluer à travers le brahmanisme. On peut penser que le brahmanisme correspond à une sorte de crise sociétale ou de crise culturelle qui se traduit par l'émergence donc, de nouvelles façons de vivre la tradition védique, notamment par l'émergence des Upanishads, et de tout un tas de voies qui vont aboutir aussi à ce qu'on appellera par la suite le yoga. Donc des voies de recherche plus personnelle de l'absolu, de l'infini, du divin, hein, d'une union personnelle au divin. Tout ça aux alentours, vous voyez, donc du premier, enfin de moins 500 avant notre ère, si on simplifie à l'extrême. Entre moins 700 et moins 300, vous voyez, c'est vraiment à la louche. Ça correspond grosso modo à ce qu'on appelle parfois, vous savez encore aujourd'hui, la période axiale. C'est-à-dire la période à laquelle, je crois que c'est Carl Jaspers qui a employé ce terme, apparaissent, ou en tout cas se transforment, la plupart des grandes religions de l'humanité. L'époque de Socrate, l'époque du Bouddha, j'y arrivais, l'époque de Confucius et de Lao Tzu. Une des époques, alors là c'est très compliqué quand on parle du monde persan, parce que là aussi la chronologie est très incertaine, mais en tout cas, où il y aurait eu une réforme importante du mazdéisme qui donnerait naissance à ce qu'on appelle le zoroastrisme, l'époque où la Bible aussi va commencer à être fixée. Ouais, donc quand on regarde toutes les grandes civilisations, tant en Orient qu'en Occident, toutes celles qu'on peut connaître qui ont laissé des écrits en tout cas, eh bien on voit que ce moment-là est un moment clé de transformation. Et c'est à ce moment-là, donc vous voyez, on peut dire que le brahmanisme donc, va se cristalliser, mais aussi le bouddhisme. En Inde, à ce moment-là, il y a une effervescence religieuse qui donne naissance à plusieurs donc, traditions. Certaines vont disparaître, d'autres vont perdurer. La tradition brahmanique va perdurer et se transformer quelques siècles plus tard en hindouisme, au sens propre. La tradition qui va apparaître à côté de l'hindouisme, c'est celle du bouddhisme. Il y en a même une autre qu'on doit mentionner, parce qu'elle existe toujours, c'est celle du jainisme. J-A-I-N-A. Jaina, c'est l'adjectif, hein, un Jaina, ou un Jain, on dit parfois, un Jain en français, et le Jainisme, c'est la religion correspondante. Le Jainisme et le bouddhisme ont en commun d'apparaître, donc, comme je disais, à peu près au milieu de ce premier millénaire avant notre ère. Le Jainisme est un peu plus ancien, semble-t-il, hein, peut-être un siècle avant. Parfois, on trouve les dates de moins 600 pour le Jainisme. Et qu'ont-ils en commun ces deux traditions, c'est qu'ils ne se réfèrent pas aux Védas. Et ça, c'est un caractère clé que vous voyez, qui vous permet de vous y retrouver aussi dans toutes les religions issues de l'Inde. Est-ce que c'est védique ou est-ce que c'est pas védique? C'est un terme, c'est comme ça qu'on le dit même en sanskrit et dans les langues en hindi aujourd'hui, dans les langues suivantes. Si ce que vous êtes en train de faire, le rituel, le texte que vous êtes en train de lire, se réfère au Veda, même nominalement, c'est hindou. Si vous ne vous référez pas au Veda, c'est pas hindou. Siddhartha Gautama, quand il va délivrer son enseignement, il ne se réfère pas au Veda. Si ce n'est pour éventuellement les critiquer. Mais en fait, il ne se réfère pas positivement au Veda. Il n'est pas védique. N'étant pas védique, il est perçu comme hétérodoxe, voire hérétique. C'est en cela, on verra par la suite, enfin rapidement, surtout dans la discussion, qu'il y a d'autres différences entre hindouisme et bouddhisme, mais c'est, je dirais, fondamentalement en cela que le bouddhisme se distingue de l'hindouisme. Parce que le bouddhisme ne se réfère pas au Veda. Ne se réfère pas à cette révélation. Il en va de même pour le jainisme. Alors, comment caractériser maintenant rapidement cette rupture que fait le Bouddha avec la tradition védique, pour autant que tout cela ne soit pas l'état, comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, d'une reconstruction a posteriori. C'est tout à fait possible. Et quand on regarde les textes bouddhistes les plus anciens, on voit la mise en œuvre de cette différenciation. Alors, en fait, Gautama, Siddhartha Gautama, vous savez, c'est son nom d'après la tradition. Alors, Gautama, on trouve parfois G-A-U-T-A-M-A ou parfois G-O-T-A-M-A. Donc, je pense que c'est indifférent. Gautama, on ne sait rien de lui, bien sûr, sur le plan historique. Quasiment rien. Encore une fois, comme là aussi, toujours, la plupart des fondateurs des religions et autres. Nous, un peu comme, vous savez, la session sur Jésus. Sur Jésus, on ne sait que les seuls textes qui nous donnent de la matière sur Jésus, des contenus, sont les textes croyants que les chrétiens ont laissé. Bien sûr, les quatre évangiles canoniques et aussi tout un tas d'autres textes qu'on appelle les apocryphes, d'époques très variées. Bon. Ça, ce sont les textes qui nous parlent de Jésus. L'histoire a finalement peu de choses à dire sur la vie de Jésus, par exemple, en dehors de ces textes. On n'a pas de traces, de données. Bon. Il en va exactement de même pour Gautama. Tout ce que nous savons sur lui, au fond, nous vient des textes bouddhistes. Autrement dit, ce qu'on répète comme étant la vie du Bouddha, l'histoire que je pourrais vous raconter, que je vous raconterai peut-être aussi, soit tout de suite, soit lors de la discussion, sur qui est Gautama, qu'est-ce qu'il a fait, etc., quel est son enseignement, ça nous vient de ces textes-là. Autrement dit, ce n'est pas de l'histoire. Ce sont des témoignages de foi. Les bouddhistes croient que le Bouddha est une personne qui a dit et qui a fait ceci et cela. Les historiens constatent cette croyance. Cette croyance a des effets historiques extrêmement importants jusqu'à aujourd'hui. Mais de là à savoir qui était réellement Gautama, personne n'en sait rien. Pas de trace. Ou quasiment pas de trace. Alors, au fond, en quoi Gautama rompt avec le système védique, d'après les textes, toujours, qui ont été mis par écrit plutôt aux alentours du 1er siècle avant notre ère, grosso modo, donc très tardivement par rapport aux événements. Donc là aussi, on a une longue tradition orale, plusieurs textes de tradition orale. Eh bien, Gautama ne se réfère pas au Veda, et au fond, va nous dire qu'il a découvert par ses propres forces une vérité ultime, transcendante elle aussi, qu'on appelle la Bodhi, l'éveil. C'est le mot Bodhi en sanskrit, B-O-D-H-I, Bodhi, qui a donné le terme Bouddha, l'éveillé. Donc le Bouddha, c'est un titre, une chose qu'il faut dire aussi, c'est comme le Messie, en fait, ou le Christ. Jésus, c'est son petit nom, on va dire. Même si ce n'est pas son vrai petit nom, c'est Yeshua, son vrai petit nom. Bon. Bon, mais vous voyez, il avait un nom dans sa culture, cet homme. Et puis, on lui a donné ce titre de Messie. Certains lui ont donné ce titre de Messie, de Christos, de Marchiar. Eh bien, Gautama, c'était son nom, et son titre, c'est le Bouddha. C'est pour ça qu'il faut éviter, idéalement, de dire Bouddha. On sait souvent, on emploie Bouddha comme un nom propre. Bouddha n'est pas un nom propre. C'est le Bouddha. Pourquoi ? Parce que c'est le titre qui lui est donné, l'éveillé, celui qui a atteint la Bodhi. Alors, vous voyez, le védisme et le brahmanisme mettent en œuvre des données rituelles, sacrificielles, sociales, liturgiques et autres, culturelles, qui s'enracinent dans un texte qui se prétend révéler, alors que le Bouddha, lui, délivre un enseignement qu'il prétend fonder sur sa propre expérience, expérience qui lui aurait fait découvrir la vérité ultime, la vérité définitive et ultime ignorée des Védas. Et c'est là où il y a, dans la façon de raconter aussi, enfin de mettre en œuvre les premiers enseignements du Bouddha, dans les textes bouddhistes les plus anciens, on voit cet aspect polémique, c'est un peu fort, parce que c'est fait très habilement. Mais en tout cas, cette mise à distance du brahmanisme, qui passe notamment par cette figure que je vais évoquer tout à l'heure, vous voyez, du rapport entre le Bouddha qui vient d'atteindre l'éveil, et puis le dieu Brahma qui vient se prosterner à ses pieds. Vous voyez, c'est une façon de dire à la fois, le dieu Brahma existe bien, mais il existe en demandant au Bouddha d'enseigner le bouddhisme. Hein. Donc, il a un rang inférieur au Bouddha, cette apparition d'une nouvelle religion. Ça, c'est la position, on va dire, qui va être celle des bouddhistes à l'égard du brahmanisme, c'est-à-dire, tous les dieux brahmaniques existent. Ça ne fait pas photo du bouddhiste. Hein. Vous savez, ça aussi, c'est contraire à ce qu'on entend très souvent quand on parle du bouddhisme. On dit que le bouddhisme est une religion athée, par exemple. C'est une façon très approximative de présenter les choses. Hein. Le bouddhisme n'est pas une religion athée, c'est une religion non théiste qui ne nie pas l'existence de divinités qu'on a, et notamment des divinités hindoues. Elle dit juste que ces divinités hindoues ne permettent pas d'atteindre la vérité ultime. Donc, ces vérités hindoues existent, sont utiles aux hommes. Donc le Bouddha ne va pas non plus discréditer complètement l'usage des sacrifices, des rituels, alors on pourrait dire stratégie, prudence, réalisme par rapport à une nouvelle révélation dans une société qui est dominée par d'autres croyances. Bon. Ou peut-être simplement, point de vue doctrinal assumé avec honnêteté, hein, qui est de dire, voilà, les dieux existent, mais les dieux sont ce qu'on appelle des devas, hein, donc des êtres qui ne sont pas libérés de la souffrance, qui ne sont pas libérés du samsara, hein, qui ne sont pas libérés de l'existence conditionnée, alors que le Bouddha prétend, à travers son éveil, donner à tous un accès potentiel à cette libération du samsara, à cette libération de la souffrance, à cette libération des renaissances sans fin, qui est le but même du bouddhisme. Donc vous voyez, c'est ça la façon de se différencier. Hein. Le bouddhisme n'est pas védique, et sans attaquer frontalement les pratiques et les croyances védiques, il va les marginaliser, ou en tout cas les euphémiser en quelque sorte, en leur disant, voilà, certes, c'est pas totalement inutile si votre but dans la vie, par exemple, c'est d'avoir une bonne santé. Vous pouvez faire des offrandes à un dieu védique qui peut vous aider à avoir une bonne santé. Par contre, si votre but, c'est d'atteindre la vérité ultime et de ne plus renaître et d'arrêter de souffrir, là, seul l'enseignement du Bouddha sera la panacée. Vous serez obligé d'en passer par là. Ce en quoi, bien sûr, les hindous ne sont pas d'accord. Eux, les hindous disent, mais non, nous, nos dieux, dans la mesure où ils connaissent le brahman, hein, et dans la mesure où on a élaboré au sein de notre tradition brahmanique puis hindoue, des voies métaphysiques, mystiques, ésotériques, extrêmement puissantes, on peut nous aussi atteindre la vérité ultime. Donc on pourrait dire, vous voyez, c'est comme s'il y avait une même problématique métaphysique et spirituelle à l'œuvre dans l'Inde ancienne, aux alentours du milieu du premier millénaire avant notre ère, qui avait débouché sur l'évolution du brahmanisme vers l'hindouisme, et puis par ailleurs sur d'autres bras en quelque sorte, vous voyez, de ce fleuve traditionnel du grand courant védique, et qui serait allé vers le bouddhisme et vers l'hindouisme et vers le jainisme. Alors les notions de samsara, de libération, de karma et tout un tas d'autres notions qu'on retrouve dans le bouddhisme, on les retrouve aussi dans l'hindouisme. Et c'est une question assez épineuse, là aussi vraiment pour spécialistes, de rapatrier chaque notion dans son cadre propre, soit hindou, soit bouddhiste. C'est moi-même, des fois, j'ai du mal à faire ça. C'est vraiment des questions très techniques. Hein. Par exemple, est-ce que la compréhension du karma, de la loi du karma, est la même chez les hindous et chez les bouddhistes? Pas facile à décrire. J'aurais tendance à dire globalement oui, mais bon, c'est un vrai sujet de recherche. Mais ce sera très intéressant de regarder cette question, de voir à partir des textes. Qu'est-ce que c'est que le karma? Vous savez, c'est un terme qui veut dire en sanskrit action, acte. Hein. Alors on trouve parfois aussi le terme karman, hein, surtout en contexte hindou, hein, plutôt karma en contexte bouddhiste, et qui renvoie à l'idée de l'énergie causale des actes. Qu'est-ce qui nous pousse à renaître et à renaître et à renaître de vie en vie? C'est l'énergie causale des actes que nous avons posés de vie en vie, qui continue d'avoir des effets. La loi du karma, c'est la loi de causalité, la loi de cause à effet. Si je plante du blé, je récolte du blé, pas du riz. Si je plante du riz, je récolte du riz, pas du blé. Vous voyez, c'est la même chose. Si je plante un acte négatif dans ma vie présente, dans cette vie ou dans une vie suivante, je récolterai un acte de la même nature que celui que j'ai posé. Les actes négatifs commis par moi produisent des actes négatifs pour moi, c'est-à-dire des choses qui me font souffrir. Les actes positifs produits par moi, c'est-à-dire les actes altruistes, ou les actes spirituels, les actes tournés vers la libération, eh bien, produisent, dans cette vie ou dans les vies suivantes, des actes de même nature, positifs, qui vont me donner du bonheur ou me permettre d'avancer dans mon chemin spirituel. Dans le contexte, donc les hindous et les bouddhistes partagent cette croyance, en gros, hein, comme je dis, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, ils partagent cette croyance. Ce qui nous permet de dire un point important aussi, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, donc la transmigration, hein, la renaissance, ce que certains appellent la réincarnation, terme que moi j'essaie d'éviter parce que c'est un terme qui vient plutôt du spiritisme, hein, et on pourrait dire, vous voyez, des nouvelles spiritualités occidentales du 19e et du 20e siècle, plutôt que vraiment des traditions orientales. Hein. Donc la transmigration ou la métempsychose, le terme le plus technique, le plus approprié, c'est de dire les renaissances. Hein. Le fait d'être amené à renaître, hein, eh bien, c'est ce que ces traditions essayent de fuir par-dessus tout. Hein. Alors que justement dans les traditions, enfin, ou dans les courants religieux, spirituels, occidentaux, modernes, contemporains, la renaissance est vue plutôt positivement, hein, comme une occasion d'avoir une nouvelle vie, une occasion de pouvoir continuer à progresser, s'améliorer, etc. Ne pas mourir en fait, échapper à la mort. Hein, donc c'est vu plutôt positivement. Hein, voire parfois confondu avec la résurrection, hein, réincarnation, résurrection, vous savez, ce qui bien sûr n'a rien à voir. Bon, c'est même, je pourrais dire, l'inverse, en quelque sorte. Parce que la résurrection, c'est le salut en contexte chrétien, alors qu'en contexte hindou ou bouddhiste, la réincarnation, c'est quelque chose comme la damnation. Hein, c'est le fait d'avoir échoué spirituellement, hein, de continuer à renaître. Eh bien, là, vous voyez le grand malentendu qui fait que on croirait que ces traditions incitent à renaître. Pas du tout. Hein. Le but de ces traditions, c'est d'éviter de renaître. Hein, ne pas avoir à renaître. Hein. La libération, hein, moksha en sanskrit, ou l'éveil, bodhi, le fait d'atteindre l'état de Bouddha parce qu'on a bien suivi son enseignement, eh bien, ça nous conduit à ne plus renaître, hein, à échapper à l'existence conditionnée. Donc ça, vous voyez, c'est très contre-intuitif pour nous occidentaux. Donc là, vous voyez, vous avez ce point commun entre ces deux traditions. Alors, y a d'autres notions qu'il faudrait creuser, hein, la notion de samsara, hein, qui au fond, ce monde marqué par la finitude, l'insatisfaction, le malaise, le mal-être, hein, le karma. Hein. Et puis, juste pour terminer, puisque le temps est venu, vous voyez, donc j'ai vu à quel point, vous voyez, il y aurait énormément de choses à dire encore, hein, bien sûr, sur ces deux traditions. Le passage de l'hindouisme, enfin du brahmanisme à l'hindouisme, hein, que je n'ai pas encore vraiment évoqué, je vous ai dit qu'il y avait eu cette évolution, cette spiritualisation en quelque sorte, du védisme vers le brahmanisme. Ce mouvement va continuer du brahmanisme à ce qu'on va appeler hindouisme. Le principal critère qui va caractériser l'entrée dans ce qu'on appelle l'hindouisme au sens propre, c'est l'émergence de figures nouvelles, de figures divines nouvelles. C'est-à-dire que vous aviez des dieux védiques et brahmaniques mineurs, qui sont Brahma, Vishnu, Shiva. Ces trois dieux, mineurs dans le contexte brahmanique, et dans les Védas, a fortiori, vont, avec les siècles, prendre de plus en plus d'importance. Vous voyez, les dieux védiques majeurs, Indra, Vayu, etc., vont continuer d'exister dans l'hindouisme. Ils sont toujours, aujourd'hui, vénérés ponctuellement. On les cite, quand on récite les hymnes, quand on fait le sacrifice, on les évoque. Mais tout le culte et toute l'expérience religieuse et la pensée religieuse et le vécu religieux des hindous va se consacrer à d'autres figures divines qui sont Vishnu et Shiva en particulier. Brahma reste important à titre nominal, mais Brahma n'est pas l'objet d'une dévotion, vivante, extrême, comme les deux autres dieux aujourd'hui. Depuis à peu près 2000 ans, les deux dieux qui vont focaliser toute l'attention de ce qu'on appelle la bhakti, la dévotion, qui est l'un des termes fondamentaux de cette religion hindoue, la dévotion, hein, c'est d'une part Vishnu. 80% des hindous aujourd'hui approximativement sont vishnuistes, hein, c'est-à-dire que pour eux, le dieu principal c'est Vishnu, qui résume tous les autres dieux. Et 20% approximativement des hindous sont shivaïstes. Hein, pour eux, le dieu principal c'est Shiva, qui résume Vishnu et tous les autres dieux. Sachant que parmi les shivaïstes, il y a aussi une autre composante qu'il faut mentionner parce qu'elle est très intéressante et originale, qui est le culte de la déesse, de la Shakti, hein, qui qui est présenté souvent comme la parèdre de Shiva, voire comme étant autonome aussi, comme étant... vous savez, Kali, notamment, la déesse Kali, est une des figures de cette déesse avec un grand D. Parmi les, je dirais, proches des shivaïstes, vous avez des millions d'hindous qui sont des shaktistes, hein, ou des dévots de la déesse. Et c'est, pourquoi c'est intéressant? Parce que je dirais, c'est à ma connaissance un exemple rare d'une tradition toujours vivante aujourd'hui, pratiquée par des millions de gens, qui met l'absolu au féminin. La figure divine principale est une figure féminine. Et les dieux masculins sont en quelque sorte, comme je disais, des aspects de cette figure féminine. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de le mentionner. Et donc voilà, l'hindouisme aujourd'hui, comme je dis, voilà, il est dominé par Vishnu, Shiva et la déesse. À côté, bien sûr, il y a les autres traditions minoritaires. Hein. Le jainisme qui est pratiqué par peut-être, je sais pas, 10 millions de membres, c'est une toute petite religion à l'échelle de l'Inde. Hein. Et le bouddhisme qui, après avoir vécu en Inde jusqu'aux alentours du 13e, 14e siècle approximativement, hein, donc vous avez 2000 ans d'histoire bouddhiste en Inde quand même, mais une histoire qui va, je dirais, après avoir fleuri vraiment jusqu'aux alentours du 5e, 6e siècle, le bouddhisme va diminuer, jusqu'à disparaître d'Inde. Hein. Vers le 14e siècle approximativement, le bouddhisme a disparu d'Inde. On considère en général que qui lui a donné le coup de grâce? L'arrivée des musulmans. L'arrivée des musulmans en Inde, les musulmans sont depuis très longtemps en Inde, et ça commence dès le 7e, 8e, 9e siècle. Hein. Mais là aussi, ils vont arriver progressivement, hein, comme les autres vagues d'invasion, et en avançant, ils vont certains musulmans, en tout cas, vont affronter, bien sûr, les traditions locales, et certains musulmans vont essayer de convertir les populations à l'islam. Ça ne va pas marcher pour ce qui concerne l'hindouisme, religion majoritaire très ancienne, très enracinée, ou ça va marcher marginalement. En revanche, le bouddhisme, qui est déjà une minorité fragilisée, lui, il va subir ce choc de plein fouet, en particulier parce que le bouddhisme est une religion monastique, comme vous savez, qui était concentrée dans des grands centres monastiques. En particulier, par exemple, l'université de Nalanda, dans l'Inde du Nord, où il y avait 10 à 15 000 moines. Les conquérants musulmans ont rasé cette université, ont brûlé les bibliothèques, ont détruit. Voyez-vous. Donc là, le bouddhisme n'a pas pu survivre sans ce support monastique, alors que l'hindouisme, lui, qui était enraciné dans la population, il a survécu. Et donc le bouddhisme, par contre, au cours de tous les siècles, depuis sa naissance jusqu'à cette phase que je suis en train de décrire, eh bien, il s'était diffusé dans toute l'Asie, ce qui fait qu'il était donc devenu aussi une religion chinoise, une religion himalayenne, une religion coréenne, une religion japonaise, une religion vietnamienne, et ainsi de suite. Et qu'aujourd'hui, il est devenu, pour une part, une religion française. Etc. Voilà, je m'arrête là-dessus.
Merci Eric.